Notice sur la vie et les ouvrages de Madame de Staël par Madame Necker de Saussure. Édition Mémoire de Madame de Staël, 10 années d'exil, ouvrage posthume publié en 1818 par Monsieur le Duc de Breuil et Monsieur le Baron de Staël. Nouvelle édition précédée de cette notice. Édition Paris, Charpentier Libraire Éditeur, 1861. Notice sur le caractère et les écrits de Madame de Staël. Première partie. Suite. Des écrits de Madame de Staël. Première période. Quoique les ouvrages de Madame de Staël aient généralement été dictés par le même esprit, on y reconnaît un caractère un peu différent suivant l'époque à laquelle elle les a composés. Je les diviserai donc en 3 classes correspondantes à 3 périodes de sa vie. La première, très courte, qui a précédé la Révolution. La seconde, qui s'étend du commencement de la Révolution à la mort de M. Necker. Et la troisième, qui est postérieure à cet événement. La réputation naissante de Madame de Staël fit accueillir ses moindres productions. On lisait avec avidité des synonymes, des portraits écrits par elle et d'autres essais de ce genre qui, au moment où elle entra dans le monde, étaient l'objet de certains défis de société. Et déjà, dans ses légères compositions, on remarque la finesse de pensée, les traits vifs de sentiments qui ont toujours été le cachet de sa manière. Mais, avant cette époque et celle de son mariage, elle avait déjà écrit une comédie en vers, qui fut bientôt suivie de 2 tragédies. Il est inutile de dire que ces pièces ne sont que des ébauches très imparfaites. Elles n'étaient point destinées à l'impression, mais Madame de Staël en a fait quelquefois la lecture dans des réunions nombreuses, où elles ont eu un succès inouï, succès qui prouve l'instinct du talent chez les juges, car c'est surtout comme de représages qu'on a dû les considérer. L'idée principale de la comédie intitulée « Sophie » ou « Les sentiments secrets » ne parut pas irrépréhensible à Madame Necker. Sophie est une jeune orpheline qui a conçu pour son tuteur, le mari de son amie, une passion dont elle ne se doute pas. Mais l'excuse de l'héroïne, l'ignorance du sentiment qu'elle exprime, put sembler à des yeux sévères ne pas s'étendre jusqu'à l'auteur. Toutefois, le sujet est traité avec délicatesse, ou pour mieux dire, avec innocence. On voit que Mademoiselle Necker n'a songé qu'à peindre un attachement sans espoir. D'ailleurs, le caractère moralement très beau de la femme mariée, rivale de Sophie, balance l'effet de ce dernier rôle. Il est étonnant qu'un si jeune auteur, dont la tête était déjà pleine de tant d'idées, n'ait pas eu davantage la prétention de varier ses moyens d'effet. Mademoiselle Necker s'est entièrement renfermée dans la région du sentiment. Et son esprit fécond, borné à une seule couleur, y a multiplié les nuances. Les sentiments secrets sont une pièce toute d'amour et d'amour malheureux. Il y règne une douce et mélancolique sensibilité. Mais, dans cette espèce d'élégie, 4 situations, 4 caractères différents se dessinent pourtant d'une manière nette et distincte. Le style, comme l'a dit plus tard Madame de Staël en la publiant, n'est pas correct. Mais il est coulant et harmonieux. Elle avait une telle facilité qu'il semble qu'elle ait en toute chose commencé par l'habitude. Une tragédie étant une œuvre bien autrement difficile qu'une comédie, Jane Grey est à tous égards inférieure à Sophie. Cependant, l'inspiration y est plus élevée, et les indices du talent y sont plus fortement marqués. Le rôle de Jane Grey a un coloris doux et pathétique. Celui de Northumberland est conçu avec une vigueur qui paraît bien étonnante quand on considère l'âge de l'auteur. On a surtout remarqué quelques vers très énergiques de ce dernier rôle. Jane Grey est peut-être la seule des productions de Madame de Staël où il se trouve une peinture animée du bonheur. La situation de l'héroïne au commencement offre, il est vrai, ce qui devait être l'idéal de la félicité aux yeux de l'auteur même, un mariage avec un héros adoré, les jouissances d'un esprit supérieur et, dans l'avenir, des chances brillantes ou funestes, mais toujours glorieuses. Aussi, comme Madame de Staël avait toujours besoin de reconnaissance, et par conséquent de religion dans le bonheur, elle a donné au caractère de Jane Grey une teinte religieuse très prononcée. Peut-être a-t-on trop désespéré de la peinture du bonheur pour l'effet littéraire. On éprouve je ne sais quel attendrissement pour les êtres qui savent être heureux. Et, dans la tragédie surtout, où l'orage s'annonce, il résulte une vérité, une force singulière, du calme et de la douceur des premières impressions. Nous céderons au plaisir de citer quelques vers qui peignent cette plénitude de contentement dont l'expression est si rare, dans les fictions comme dans la vie réelle, chez les écrivains de génie. C'est Jane Grey qui parle. Au lever du soleil, alors qu'en m'éveillant, je retrouve mon âme et recommence à vivre, à sentir mon bonheur quelque temps je me livre. J'éprouve le plaisir de m'apprendre mon sort. J'y pense lentement. Ma voix nomme Guilfort, etc. Il paraît que l'histoire de Jane Grey avait singulièrement frappé Madame de Staël, car elle s'est encore occupée de cette femme infortunée dans les « Réflexions sur le suicide » qu'elle a composées en 1811. Elle voulait prouver que l'attente d'une mort affreuse n'est pas, aux yeux du vrai chrétien, une raison suffisante pour attenter à ses jours. Dans ce but, elle suppose une lettre écrite par Jane Grey en réponse à la proposition qui lui a été faite de prévenir son supplice en s'empoisonnant. Cette lettre, où respire le pur esprit du christianisme, est de la beauté la plus touchante et la plus élevée. Il est à remarquer que ses premiers ouvrages, écrits à un âge si tendre, ont une vérité plus parfaite et plus intime dans l'expression du sentiment que ceux de la période suivante, qui prouvent néanmoins une plus haute portée. Cependant, j'ignore si les traits de génie qu'on a relevés dans ces pièces en feront pardonner les défauts, hors du cercle de l'amitié. Jane Grey, surtout, ne peut soutenir l'examen. Ce sont des monuments curieux de l'histoire d'un grand talent, mais leur vrai mérite est dans ce qu'ils annoncent. Madame de Staël fit, à peu près dans le même temps, une seconde tragédie intitulée Montmorency. Cette pièce, qui n'a jamais été imprimée, contient de belles scènes, et le rôle du cardinal de Richelieu y est tracé avec esprit. Toutefois, le caractère du héros, poussé à la rébellion par une femme ambitieuse, ne pouvait pas être bien théâtral. Il est donc à présumer qu'un sentiment particulier a influé sur le choix de ce sujet, et qu'à l'époque où commençaient à se former les nœuds d'une amitié qui a embelli ou consolé la vie de Madame de Staël, elle se plaisait à répéter le beau nom de son ami, Monsieur le Vicomte Mathieu de Montmorency. Le goût de Madame de Staël s'était d'abord déclaré en faveur de la poésie, mais, depuis ses essais dramatiques, elle n'a guère composé qu'une seule pièce de vers un peu considérable. Le mécanisme de la versification a été tellement perfectionné en France qu'il lui fallait ou se résigner à un genre d'infériorité ou s'assujettir à un travail qui eût amorti sa verve. Peut-être que l'essor irrégulier de son talent ne pouvait s'accommoder d'une marche mesurée. Elle y aurait perdu de l'originalité, et elle s'est montrée plus grand poète en prose qu'elle ne l'eût vraisemblablement été en vers. En suivant l'ordre des temps, je dois parler ici de trois nouvelles que Madame de Staël a composées avant l'âge de 20 ans, mais qu'elle n'a publiées qu'en 1795. Elle n'attachait aucune importance à ces légères productions. Ainsi, elle dit elle-même dans l'avertissement que les situations y sont indiquées plutôt que développées et que c'est dans la peinture de quelques sentiments du cœur qu'est leur seul mérite. Il s'y trouve en effet des traits ravissants de sensibilité. Mais les situations qui avaient séduit le jeune auteur sont trop fortes pour le cadre, et l'on voit que Madame de Staël les avait imaginées dans le temps où elle cherchait des sujets frappants pour la scène. Il y a toujours une veine tragique dans son talent. Produire de grands effets, exciter de fortes émotions. Ce besoin du génie et de la jeunesse a longtemps dominé chez elle. Aussi a-t-elle prodigué la mort dans ses nouvelles avec une sorte de témérité. celui-là seul que la mort a frappé dans ses plus chères affections, devrait avoir le droit de traiter ce sujet terrible. Seul il peut parler dignement des peines qu'il connaît. Seul il peut évoquer l'image du roi des épouvantements sans une sorte de légèreté profane. Au reste, la publication de ces nouvelles n'a fait que fournir un prétexte à celle du morceau extrêmement distingué qui leur sert d'introduction. C'est un traité sur les fictions, plein de vues neuves et de pensées agréables. Les différents genres de fiction, leurs convenances relatives aux divers degrés de la civilisation, y sont appréciés avec une rare sagacité, et l'imagination y est analysée par un esprit accoutumé à vivre avec elle. Lettre sur Rousseau. Mais son ouvrage le plus achevé de cette période, ce sont les « Lettres sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau ». Là se trouve toute la vivacité de la jeunesse et son plus grand charme, ce qu'elle est et ce qu'elle promet. Là, on entrevoit un penseur, un moraliste, une femme capable de peindre les passions, mais tout cela confusément et dans le nuage. Là est déposé le germe de toutes les opinions que Madame de Staël a développées depuis. Elle parcourt un champ immense d'idées, elle effleure en passant une foule de sujets. Et quoique sa marche soit dirigée par celle de Rousseau, elle accompagne cet auteur d'un pas si léger et si rapide, elle le croise et le devance tant de fois, qu'on voit qu'il a excité bien plus qu'il ne l'a soutenu. C'est toujours d'abondance qu'elle parle. Elle cède au besoin de répandre son âme. Et l'on juge que, si elle eût choisi un tout autre objet, elle s'en serait peut-être occupée avec moins d'amour, mais qu'elle aurait écrit avec autant de facilité et d'éloquence. Quel que soit l'enthousiasme que lui inspire Rousseau, elle maintient l'indépendance de son esprit. Elle sème avec profusion ses propres pensées, en les exprimant avec cette grâce, ce léger embarras d'une jeune femme qui souffre un peu d'avoir à déployer tant de force. C'est dans des morceaux d'une vive sensibilité, c'est surtout dans des élans d'admiration et d'amour pour son père, qu'elle a épanché tout son cœur. Enfin, malgré quelques mouvements et quelques jugements un peu jeunes, elle est déjà étonnamment elle-même dans cet écrit. C'est déjà cette personne sur qui tout produit de l'effet, qui examine tout de ses propres yeux, qui, ayant une manière à elle d'envisager les objets, se donne la peine de vous expliquer cette manière, et qui étend toujours vos idées, par cela seul qu'elle change votre point de vue. C'est cette personne, enfin, qui ne trace pas une ligne sans avoir pensé ou senti ce qu'elle écrit, et qui exprime toujours, si ce n'est exactement la vérité des choses, du moins celle de son impression. Peut-être cette production ressemble-t-elle pour la manière à ses meilleurs ouvrages plus qu'à ceux d'une époque intermédiaire. Dans cette première période où, de même que dans la dernière, Madame de Staël vivait au milieu d'une société extraordinairement brillante et y avait de grands succès, l'esprit de conversation à communiquer de la clarté, de la brièveté, du trait et de l'éclat à son style. Peut-être y a-t-il même des rapports particuliers entre les lettres sur Rousseau et l'ouvrage posthume de Madame de Staël. Rien assurément ne peut différer davantage pour le sujet et la forme que ces deux écrits, et cependant, ils se rapprochent par la limpidité de la diction. Et parce qu'à travers la chaleur ou la vivacité de sentiments bien dissemblables, il y règne une égale sérénité d'esprit. Le calme du matin et celui du soir de la vie s'y font sentir. Elle n'avait pas été encore atteinte par l'orage quand elle a composé ses lettres. Aussi, dans une foule de remarques charmantes, on ne trouve ni la profondeur de ses impressions, ni celle de sa connaissance du cœur. C'est presque toujours la souffrance qui nous porte à creuser dans notre âme. Il faut que l'abîme s'ouvre pour qu'il y pénètre un rayon du jour. l'analyse des effets de la douleur, l'emploi de couleurs très sombres, en contraste avec les traits lumineux de ses pensées, ont été un des grands moyens de Madame de Staël. Elle s'est montrée unique dans ce genre. Et pourtant, en relisant les lettres sur Rousseau, où elle a cherché à se modérer, l'on retrouve avec bien du plaisir son esprit et même sa sensibilité, revêtue de teintes plus douces. Ceux qui ont voué un culte au talent veulent qu'il produise sur eux ses plus grands effets. Ils veulent éprouver sa puissance, fût-elle malfaisante et cruelle. Et, comme eux seuls exigent de lui des preuves de force, eux seuls ont aussi le droit de lui distribuer la gloire. Mais la plupart des lecteurs ne cherchent qu'une douce distraction. Il est mille destinées douteuses qu'une représentation embellie de la vie berce d'agréables illusions. Et peut-être faut-il être ou très heureux ou très malheureux pour aimer à répandre des larmes. C'est parce que les lettres sur Rousseau raniment et exercent doucement le cœur et la pensée, sans trop exiger de l'un et de l'autre, que le charme en a été si universellement senti. Toutefois, n'en déplaise à ceux qui aiment à renfermer le dénigrement général d'un écrivain dans l'éloge de son premier essai, cet ouvrage étonnant pour l'âge de l'auteur, brillant et distingué pour tous les âges, ne manifeste encore ni la grande imagination ni la supériorité transcendante dont Madame de Staël a fait preuve depuis.